Manitou, la nation d'Israël, chapitre 38-39, Bereshit Rabba, cinquième bande.
Nous avons ce problème grammatical apparemment dans le même mot, mimeni. Dans le pshat, c'est la lecture tzadeka mimeni, plus que moi. Tandis que dans le midrash, nous sommes en train d'étudier le sens est mimeni à partir de moi. Vous voyez, c'est clair? Je vais vous donner un autre exemple avant de lire le Midrash. Pour le moment, nous étudions la question posée par vous. C'est dans le rapport des explorateurs, le rapport que les explorateurs font à Moïse, de leur mission d'exploration dans l'Eretz Israël, dans le temps du désert. Alors, je vais marquer là. Ils font le rapport suivant. C'est Caleb qui s'oppose au rapport des explorateurs. Et vous savez, nous sommes dans un problème brûlant d'actualité. Hein, les explorateurs ont allé faire une mission d'exploration et sont revenus dire au peuple ce qu'on appelle Dibat Haaretz, la calomnie de la terre. Ils ont parlé de ce qui se passe en Eretz Israël sous forme de calomnie et en mêlant des vérités à des contre-vérités. Vous savez que les mensonges les plus dangereux sont les demi-vérités. Okay. Alors, verset 31, Veha Anashim, Asher Alou Emo, et ces hommes, des explorateurs qui étaient avec Caleb, qui parle dans le verset plus haut, Amrou, on dit, Lonuchal La'alot, Elaham, nous ne pourrons pas monter vers ce peuple, Ki Hazakhu Mimenu, car il est plus fort que nous. Enfin, pour formuler en termes qui réalisent au problème contemporain, il y a des difficultés insurmontables. Okay. Voilà ce que les explorateurs sont revenus à dire au peuple en revenant d'une mission d'exploration en Eretz Israël. Donc, à quel point ça ressemble au compte-rendu des Juifs qui, au nom de la Torah, disent il ne faut pas en Eretz Israël, il y a des difficultés. C'est déjà dans la Torah, cette histoire-là. C'est clair, mais... Bon, donc Dieu a eu pitié d'eux, ils sont pour sortir. Et alors... Parce que le grand paradoxe, c'est que ces rabbins, là, lorsqu'ils commandent cette paracha à la synagogue, disent pique-prendre des explorateurs. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font la même chose. Je ne sais pas si c'est clair. Je dis oui. Alors voilà le pshat. Ki hazakhu mimenu. Car le peuple en question est plus fort que nous. Mimenu. Je n'ai pas de tableau, mais vous visualisez suffisamment. Rashi, et après je vous lis le Midrash. Rashi, vous voyez, sur verset 31 du chapitre 13 de Bemidbar. Keliachol, klape ma'ala amru. Keliachol, vous comprenez ce que ça veut dire en hébreu? Keliachol? Si on a le droit de dire, Keliachol, pour ainsi dire, mais dans le sens que si ce n'était pas écrit, on ne pouvait pas le dire. Hein? Je vais vous faire l'étymologie. C'est Kavbet Yachol. Kavbet, c'est les règles de l'aide de l'alphabet. C'est une allusion à la parole de Dieu. Seul lui peut. Kav Yachol. Kav Yachol, en hébreu moderne, c'est des mots rabbiniques, ça veut dire pour ainsi dire. Okay.
Si
l'on peut dire. Si on avait le droit de dire. Klapé Marla, ils ont dit cela de Dieu. Ils ont voulu dire que ce peuple-là est plus fort que lui, pas que nous. Parce qu'en hébreu, Mimenu, ça peut vouloir dire aussi que lui. Et pas seulement que nous. D'accord ? Mimenu, en grammaire hébraïque, c'est ou que nous ou que lui. Mimenu, okay. Contracté en Mimenu. Voilà un autre exemple. Okay. Et oui, c'est un exemple assez significatif, parce que nous vivons cette même problématique. Il y a une difficulté insurmontable pour Dieu lui-même. Okay. Alors voilà un exemple de la méthode du Midrash sur ce mot. Alors je reviens donc à ce que nous avons lu, je le relis une fois. Rabbi Yirmiyah Beshem Rabbi Shmuel, Barab Esrak, Bishlosha Mekomot, Ophia, Ruach Kodesh. En trois endroits, c'est-à-dire dans trois bâtiments, ce qui est raconté dans trois endroits du Mikra, s'est dévoilé l'Esprit Saint. Le Bedin Oshem Shem, dans le tribunal de Shem, Bedin Oshem Shmuel, Beshmuel, Bedin Oshem Shlomo. Bedin Oshem Shem, Bayakir Yehuda, Bayomer, Tzadeka, Mimeni. Mahou Mimeni, Rabbi Irmiya, Beshem, Rabbi Shmuel, Rabbi Israq, c'est l'enseignement qui dit, Amar Gloku, Dieu a dit, Atem, Tiyu, Meidim, Mashev, Galoui, Bani, Meid, Alav, Mashev, Asete. Quand vous portez un témoignage, vous témoignez sur ce qui est dévoilé, mais moi je témoigne sur ce qui est caché. Alors, relisons le verset, la sanction du tribunal, c'est Judas qui parle, ça déclare. Elle a raison. Et une voix d'en haut dit, Mimeni, grâce à moi, c'est moi. Deux lectures, c'est moi qui l'atteste, c'est moi qui en témoigne, c'est moi qui l'ai fait, pour relire le message précédent. C'était ? Alors, on peut continuer, vous avez des questions ? Vous avez entendu maintenant ce qu'il dit le Midrash.
Nous étions toujours dans le Midrash de la page.
Je pose une question avant ou
après ? Vous prenez le texte de la page 43.
Hein? Je pose une question avant ou après ?
Oui, je t'écoute.
J'ai pas bien compris le. J'ai pas bien compris le problème de Issachar qu'on a vu hier à propos de Shacharit, des initiales. De chez Noyodéa, de Shol, Hacham, Racha, Etam, puis le rôle de Issachar là-dedans, quoi. J'ai pas bien, très bien compris. Si vous pouvez un peu revenir deux minutes là-dessus.
C'est sur le mot de Shacharit. Attendez, vous m'écoutez quand même sans micro ? Vous arrivez ? Ou bien sur le sujet lui-même. Répète ta question, je comprends.
C'est très rapidement sur un rapport entre
Shacharit
et
Issachar.
Issachar, oui. Oui, c'est ça, oui.
Je vais d'abord expliquer ça, et vous me direz si c'est suffisamment clair ou s'il me reste une question. Voilà, c'est que le rap que je vous ai cité, un commentaire de la Gada de Pessah, met en évidence le fait que lorsqu'on prend les initiales de l'intitulé des quatre enfants qui posent une question à Pessah, on s'aperçoit que ça forme les initiales du mot Shacharit, mais il manque le Yud de Shacharit. Je vois qu'on m'a apporté un tableau, mais il n'y a pas de crayon. Avec quoi on écrit là-dessus ? Un feu. Oui. Vous vous rendez au bureau, c'est comme ça que je vous montrerai simplement. Au bureau. Shacharit, si vous voulez l'écrire, c'est Shin, Chet, Resh, Yud, Tav. C'est clair ? Alors, Sheino Yoder Lishol, c'est le Shin. Chacham, c'est le Chet. Rachar, c'est le Resh. Et Tam, c'est le Tav. Donc, il manque le Yud. C'est clair ? Bon. Or, on voit que les quatre enfants posent une question sur le sens de la cérémonie du Seder. Ça veut dire quelle est la signification de cet événement historique en commémore. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la délivrance de l'exil de Pessah. En conséquence, dans le fond de la question, c'est leur question est quand y aura-t-il la délivrance ultime ? J'ai un peu résumé, mais je pense que c'est plus clair. Okay ? Alors on voit qu'il y a quatre attitudes de l'enfant. Je ne reviens pas sur le détail de l'analyse, ça nous prend trop de temps, je crois que vous êtes familier déjà à cela. Il y a quatre attitudes que prévoit la Torah, inévitablement, dès la génération suivante de celle de la sortie d'Égypte, l'enfant, normalement, naturellement, va demander à la génération précédente le sens de son histoire. Il naît dans une histoire dont il n'a pas les attendus. L'explication de l'histoire d'Israël, il n'y avait que la génération de la sortie d'Égypte qui en a eu expérience. Et par conséquent, la Torah elle-même prévoit qui shalcha bincha mahar lemo. Lorsque ton fils t'interrogera demain en disant « Ma avoda azot lachem » Quel est cette avoda ? Quel est ce culte ? Quelle est cette histoire que vous avez ? Et alors, dans quatre attitudes différentes. Est-ce que c'est clair ? Je dirais, peut-être nous l'avons déjà étudié, la tradition juive est une tradition qui se base sur une expérience historique. Donc ça passe par la mémoire. Ça ne peut pas passer par une reconstitution, par l'intelligence, s'il n'y a pas l'expérience historique qui passe par la mémoire. C'est ça une tradition. J'ai remarqué d'ailleurs avec plaisir que beaucoup d'auteurs juifs contemporains se préoccupent de ces problèmes de la mémoire. Hein, mais finalement, on mettra ça en évidence que, je donnerai une analogie, la mémoire est pour la vie spirituelle un peu ce que l'hérédité est pour la vie corporelle. Si l'hérédité est coupée, ça ne se reconstitue pas. Peut-être qu'il y aura des manipulations génétiques dans l'avenir qui arriveront par hasard à retrouver des combinaisons de gènes perdus. Je ne sais pas. Ouais, c'est de la science-fiction. Okay. Mais de la même manière, une tradition spirituelle, si les souvenirs de l'expérience fondatrice sont oubliés, ça ne peut pas se réintégrer par aucune imagination rationnelle. L'intelligence, quelle que soit sa force, ne peut pas réinventer un événement du passé qui aurait été oublié. Or, nous avons la preuve de l'intervention du Dieu unique dans l'histoire des hommes, dans la génération de la sortie d'Égypte. Ensuite, c'est caché. Par conséquent, la génération de la sortie d'Égypte est une génération privilégiée. Elle a assisté à l'expérience de la révélation. C'est bien clair. Ensuite, nous sommes donnés à une histoire qui fait que nous sommes rattachés par la mémoire à cette expérience et nous devons la revivre à notre manière, à l'échelle individuelle, chacun à sa sortie d'Égypte particulière, son Sinaï particulier, par l'étude du contenu de cette mémoire qui est la tradition collective. Et c'est pourquoi la médiation du juif à cette vérité qui a été une vérité expérimentale pour les Hébreux est une médiation par l'étude, alors que pour les Hébreux c'était l'expérience de vie. C'est-à-dire nous nous initions par l'étude à ce qui a été l'identité existentielle des Hébreux. Ce sont des événements historiques, ça n'a rien à voir avec une philosophie religieuse. Ensuite, cette expérience historique implique une conception philosophique du monde, mais c'est second. Est-ce que c'est clair? Donc, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que si la mémoire a passé, n'a pas passé, eh bien, elle est oubliée. Et alors, il est nécessaire que pour que la mémoire passe, il y ait un dialogue permanent de génération en génération, le fils interrogeant le père, explique-moi, toi qui as expérimenté, à moi qui n'ai pas expérimenté, de quoi s'agit-il dans ma vie que tu m'as donnée? Je formule un peu la question que je fais. Et c'est pourquoi la Haggadah de Pessah dira, chacun doit se considérer comme si c'était lui-même qui est sorti de l'Égypte. Et c'est vrai, de génération en génération, la génération contemporaine est celle qui est sortie d'Égypte par le biais de cette mémoire qui a été transmise depuis la génération de la sortie d'Égypte sur la génération de mes parents. Et s'ils ne m'ont pas transmis, et ça s'arrête. Voilà, c'est clair. Okay.
Et il y a...
Pardon ? Oui, je vais y arriver, je vais y revenir parce que je voudrais terminer cette analyse. Et par conséquent, et là il y a une indication de pédagogie extrêmement importante, non seulement qu'il ne faut pas s'étonner que le fils interpelle le père, explique-moi que ça veut dire être juif, d'ailleurs derrière vous avez la question fondamentale des adolescents, explique-moi que ça veut dire être homme, et pour un juif ça veut dire explique-moi que ça veut dire être comme juif. Non seulement il ne faut pas considérer qu'il y a là une impertinence, une insolence de la part du fils, mais la Torah prévoit que ça se passera et qu'il faut que ça se passe. Et par conséquent, l'obligation est pour le père d'avoir à répondre à la question du fils. Et c'est clair. Et sur la, c'est pourquoi le cérémonial de Pessah commence par la question du fils. Manishtana, Laila, Zenko. C'est ça la question de l'enfant à laquelle pense la Torah en disant quand ton fils t'interrogera demain. C'est-à-dire c'est inévitable et souhaitable qu'il t'interroge, sinon la tradition va s'arrêter. Je reprends l'explication, vous me direz si elle est suffisamment claire. Ceux qui n'ont pas assis, expérimenté l'événement de la sortie d'Égypte ne peuvent pas comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas le 14 juillet. Bien que le 14 juillet, de loin, ça participe de ça. C'est un événement de révélation, de révolution, un événement de libération que les Français continuent à commémorer de leur manière. Ils savent que c'était très important. Mais finalement, c'est un souvenir qui n'est resté que chez les patriotes révolutionnaires. Hein. Et puis pour les autres, c'est le bal du 14 juillet. Donc, et c'est un peu comme ça que ça marche chez les juifs assimilés. On sait que c'était important. Alors symboliquement, à Pessah, on achète une matzah. Et on mange du pain. Et je crois que notre génération, je parle de la mienne, a vécu quelque chose d'analogue. C'est-à-dire, nous avons été contemporains de la Shoah et contemporains de l'existence de l'État d'Israël. Et nous savons déjà que les générations futures, quelle que soit leur certitude de l'importance de ces événements, ne sauront jamais de quoi il s'agit. Est-ce que c'est vrai ? Et alors, si on ne transmet pas cette expérience, elle s'arrête, elle devient un souvenir abstrait, livresque, qu'on manie avec des mots. Et on fait des amalgames avec des analogies qui n'en sont pas, et avec un mot, on met ça en question. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est extrêmement important. J'ai raconté ça immédiatement après la guerre. J'ai connu le fondateur du, Comment s'appelle le monument martyr juif connu à Paris? Comment ça s'appelle ça? Oui, le mémorial. C'est le Schneerson, je l'ai connu personnellement, il s'est battu comme un lion pour obliger la communauté à commencer tout de suite de constituer des archives et de constituer une mémoire. Alors que l'ensemble des rescapés ne demandait qu'une seule chose, c'est d'oublier. Et on voit à quel point il a raison, parce que bien que ces archives ont été reconstituées, finalement, le monde entier admet qu'on puisse mettre en question que ça se soit passé. Même. Et vous comprenez, je veux dire, je suis inquiet. Enfin, le seul fait que la question se pose, pour nous qui avons vécu ces choses-là, c'est inouï. Et à peine 40 ans après, 50 ans après, une génération après. Alors on voit à quel point ce que dit la Torah est important. Il faut que la génération de la sortie d'Égypte sache qu'elle a un devoir d'expliquer à l'enfant, à la génération suivante, de quoi il s'agit. On va voir sur le plateau du Seder ce qui symbolise l'esclavage et la délivrance. Et le gosse va demander de quoi il s'agit. Et on ne se rend pas compte que quand le gosse demande de quoi il s'agit, il demande qu'est-ce que c'est que ça être juif. Vous avez compris? Cette chose bizarre dans l'histoire des hommes. Et alors le père doit répondre tout de suite en lui expliquant l'histoire d'Israël. Expérience de l'exil, expérience de la délivrance. Et sur le plateau du Seder, il y a par exemple le Haoshet, qui représente l'exil, la matzah qui représente l'exil, et puis il y a le korban pesach qui représente la délivrance. C'est ça qu'il demande, okay? C'est clair. Et je me souviens d'un enseignement du Rav Kook qui disait lorsque l'enfant demande à ses parents à un certain âge qu'est-ce que je dois faire dans la vie, alors les parents ont tendance à répondre par un métier. Toi tu seras avocat, toi tu seras ingénieur, toi tu seras médecin. Alors que le gosse avait demandé qu'est-ce que j'ai à faire de ma vie, tout à fait autre chose qu'il a demandé. Même si c'est pas parlé, c'est ça qu'il veut dire. Et alors quand il entend la réponse, tu seras... Et il se rend compte qu'on ne peut pas parler avec les parents. Ils sont infantiles. Okay? Et alors, il en résulte des troubles qu'on appelle la crise de l'adolescence, mais surtout la révolte des générations. Et en général, cette révolte des générations en milieu juif, ça aboutit à l'assimilation de la jeunesse. Parce que les parents n'ont pas répondu à la question de l'enfant. Et donc, ce problème est... C'est clair que ce problème est important. Et d'ailleurs, j'ai vécu l'expérience des mouvements de jeunesse. Le mouvement de jeunesse juif avait pour objet de gérer cette révolte des parents contre des enfants contre les parents et de la normaliser, de la positiviser. Enfin, le secret pédagogique d'un mouvement de jeunesse, c'est que il arrive à inverser la catastrophe de la crise de l'adolescence. Il se substitue aux parents pour insérer la jeunesse juive dans le peuple juif. Et alors, du côté de l'adolescent, le chef de troupe ou la châtaigne de, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, est de son côté contre le père, mais du côté du père, le chef de troupe est du côté du père pour sauver le fils. Et comme on confie ces tâches d'éducateur à des adolescents qui, au fond, ne cherchent qu'une auberge de jeunesse, alors imaginez que c'est par hasard que ça réussit. Mais non, mais en fait, ça réussit, parce que la fonction crée l'organe. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je crois qu'une communauté qui n'a pas de mouvement de jeunesse est une communauté perdue. La communauté en France a été sauvée par le mouvement de jeunesse dans la génération précédente. Je ne sais pas si vous savez ça, si vous sentez. Donc, alors je reviens au. Je veux dire, en fait, le cadre actuel de la communauté sort du mouvement de jeunesse et d'aucune école rabbinique quelconque. Je ne sais pas si vous savez. Tout. En tout cas.
Même dans certains milieux juifs, j'étais en Espagne avec beaucoup de juifs d'Afrique du Nord, ils n'ont pas compris la Shoah. En ce sens qu'ils vous disent, si nous on était là, on ne se serait pas laissé en marche.
Tu pars.
Alors vous comprenez, tu pars.
Oui. En tout cas, j'ai vécu cette époque, je peux vous dire qu'on était dans un piège, les Juifs du monde entier. Ça commençait à grignoter en Tunisie, en Algérie, c'était pas arrivé au Maroc, ils avaient encore du beurre. Mais et les croissants. Mais tout le monde y passait si les Alliés n'avaient pas aimé. Une fois que le piège s'est refermé, il s'est refermé. Donc, il faut savoir d'autre part qu'énormément d'Ashkenazim, dans la Shoah qui a toujours été Ashkenazim, se sont révoltés, ont combattu, ont massacré des nazis et des allemands, ils ne croyaient pas, ils sont laissés faire comme ça. Mais de toute façon, c'était un véritable piège qui s'est fermé. Et le bilan des responsabilités n'a pas encore été fait. Ce n'est pas seulement les Allemands qui sont responsables, c'est aussi la passivité, c'est pire que ça, des alliés. Non, je veux dire en tout cas, surtout les Américains. Bon, enfin, c'est notre problème. Et attendez, que je finisse l'analyse, sinon je vais oublier. Et alors, il y a, je finis cela et après, alors, la Torah prévoit que l'enfant doit interpeller les parents. Enfin, c'est suffisamment clair. Parce que, encore une fois, le contenu de ce dont il est question, dans le souvenir de la sortie d'Égypte, est un contenu de mémoire historique, et que si ce n'est pas transmis, la mémoire, ça se transmet de père en fils. Est-ce que c'est clair? À la rigueur, de grand-père à petit-fils, quand ça engendre, et dans le meilleur des cas, c'est quand c'est les deux, mais ça se transmet de génération en génération. Et alors, la Torah prévoit qu'il y a quatre attitudes de l'enfant lorsqu'il interroge. Alors, je vais les analyser très brièvement. Celui qu'on appelle le Chacham ne pose pas de questions de pourquoi. Il pose une question au niveau du comment. Je vais m'expliquer. Le Chacham ne demande pas le sens de la vie juive. Il demande tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire pour la réussir. Est-ce que vous avez le texte de la Agada en tête? Hein? Bon. Alors, le Chacham ne dit pas pourquoi il faut faire ça. Il pressent par lui-même, c'est ça la Chokhma, que ça a un sens. C'est évident que ça a un sens. Ce qu'il y a d'urgent, c'est comment faire pour que ça réussisse. Et il demande qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, regardez comment formuler la question du Chacham. Ma ha'idud va'hukim va'mishpatim asher tziva Hachem elokeinu etrem. Quel est le sens de ces commandements que Hachem, notre Dieu, il se met dedans, vous a ordonné. En disant vous a ordonné, il ne se met pas dehors. Simplement, il désigne le problème. C'est vous qui avez reçu l'expérience. Mais il s'agit de Hachem, notre Dieu. Nous sommes concernés, alors vous expliquez-nous. Vous avez compris le problème, c'est clair. Alors ça, c'est la Chacham. Alors tout de suite, je commence les analogies. Et bien, dans l'histoire de la famille d'Abraham, le Chacham, c'est Isaac. Et hier, j'ai parlé trop rapidement, peut-être, comme vous avez dit, vous avez raison. Dans le problème de la sortie d'Égypte, on retrouve le problème du sacrifice d'Isaac. Il y a un sacrifice à faire, sacrifice pascal, je suis prêt. Ça, c'est Isaac, le Chacham. C'est clair? Bon, le deuxième, le Rachar, lui se met en dehors en posant la question. C'est-à-dire, même si il y a un sens à ce que vous faites, ça ne me concerne pas. Voilà l'attitude du deuxième type d'enfant. Ok? Et donc, ça je vais analyser un peu plus. Il y a des raisons pour lesquelles c'est pas normal que dans une famille, un des enfants de la famille soit comme ça. Et vous connaissez, dans toutes les familles, il arrive, c'est catastrophe. Enfin, je ne sais pas comment dire en français, le mot est né en hébreu, et cette sarotte là, okay, on appelle ça un pancher. On est en slang israël, une panne de transmission. Et la panne coûte cher, alors on l'appelle panne cher. Non, mais je crois que c'est un mot qui vient de l'anglais. C'est l'anglais, je crois. Oui. Et alors, la plupart du islam, en fait, de l'argot israélien, enfin de l'arabe, mais beaucoup du turc, mais beaucoup de l'anglais. Et alors, je vais donner l'analyse qu'a donnée la Foucault. Une analyse qui est basée d'ailleurs sur le texte lui-même. Comment comprendre que dans une famille de la transmission de la tradition, il y en a un qui a haram, c'est normal. On l'a déjà défini, mais qui est un rachat. C'est-à-dire, son étude, ça consiste à dire, vous voyez, les catégorisations de définition. Hacham et rachat, c'est pas dans la même catégorie. Hacham, ça veut dire sage. Donc, on s'attendrait à l'opposé, que ce soit ignorant. Non, il n'est pas ignorant. Il peut être sage, mais il est rachat. Alors que l'opposé de rachat, c'est tzadik. Okay? Et d'ailleurs, les rachaïm les plus dangereux, c'est des hachamim qui sont rachaïm. Okay? Il y a un midrash que je vous cite souvent, que les hassidim aiment bien le citer, c'est quand le satan. Avec un visage de Satan, il est inoffensif. Parce qu'on sait qui c'est. Quand il vient avec un visage de tzadik, il est dangereux. Vous avez compris? Bon. Je ne veux pas rentrer dans les analyses des sectes, encore une fois, mais vous voyez comment ça se dit. Il y a un drache terrible qui dit qu'un jour, Satan s'habillera en Rosh Hashiva pour empêcher les Juifs d'aller à Jérusalem. C'est un drache terrible.
Pour empêcher les Juifs
d'aller en Israël. Et ça arrive. Oubliez, vous allez avoir des cauchemars. En général, ce sont des. Ça se sent d'ailleurs. Qu'il y a un problème psychique d'ailleurs, dans ce cas du rachat. Alors je vais essayer de le décrire comme nous l'a expliqué le Rabbi. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Rachat, Mahou Omer, Mishnah de la Gada. Rachat, Mahou Omer, Mahou Dazot Lachem. Qu'est-ce que c'est que ce service que vous faites pour vous? Vous dites, vous êtes au service de Dieu, c'est au service de vous que vous êtes. Okay? les comment on dit en français, les banquets de Pessah. Hein, vous appelez ça l'achem. Mais en fait, dans nos problèmes, l'achem, il s'est mis en dehors. C'est clair ? Dans la zone, l'achem. Alors la Mishnah continue. L'achem velolo, pour vous et pas pour lui, ou le fils est aussi à son minaklal, et puisqu'il s'est sorti du clal de la collectivité en disant vous et non pas moi, afata akhechina. Alors, ça c'est une expression difficile, je vais vous expliquer. D'après l'enseignement de Rakou, alors, quant à toi, fais-lui grincer les dents. Akhechina. En fait, ça veut dire casse-lui les dents. Okay? Alors, on leur a posé la question, et après on verra comment on lui répond. Poser la question, c'est une pédagogie, ça. Même si un fils est rachard, c'est un fils. Et quand le fils est rachard, est-ce que c'est normal que la Torah enseigne que la réponse du père, c'est de casser la cuillère? Ça va pas. Donc, alors, on va voir la suite, on revient là. Et Morlo, il dit lui, Barabourze, c'est par rapport à ça, à cause de ça, bon, que tu désignes sur le pavé de l'ICD, les signes de l'esclavage, les signes de la divorce, Rasa Hashem, libre, etc. Israël. Que Dieu a agi pour moi, c'est le Père qui répond, c'est inversé comme ça, lorsque je suis sorti de lui. Et là, Agada explique, li velolo, pour moi et donc pas pour lui, il a dit pour vous et pas pour moi, on lui répond pour moi et pas pour toi. Veilu hayasham, rayanigal. Et s'il était, ça veut dire, s'il était là-bas, il aurait pas été délivré. Ça veut dire, les Rechaim ne sont pas sortis d'Égypte. Okay? Et vous allez voir l'ampleur de cet enseignement que je cite de Rav. Alors, première parenthèse, qu'est-ce que ça veut dire rachar à la sortie d'Égypte? Avant le Matan Torah. Vous comprenez ma question? Aujourd'hui, quand on dit rachar, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pratique pas la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire rachar à la sortie d'Égypte, avant qu'il y ait une Torah pratiquée? Quelle est la réponse? Elle est donnée par la Mishnah elle-même. Oui, mais par rapport à notre sujet, vous avez mis tous les juges de diaspora dans l'enfer.
Quel?
Ça aussi, ça vous ajoutez, c'est vrai aussi. Voilà, exactement. C'est ce qu'a dit la Mishnah. Ulfi, Sheoti, et Atsumu, Minakelal, Kafar, Baika. Et par le fait qu'il s'est exclu de la collectivité, il est renégat dans l'essentiel. Kafar, Baika. C'est ça, Rachar. Vous voyez, et aujourd'hui, nous sommes de nouveau renvoyés à cette situation. Si l'histoire juive est sortie de la clandestinité, elle reprend son sens d'histoire nationale. Qu'est-ce que c'est un rachat? Avant d'être un rachat par rapport au livre de la Torah, c'est un rachat par rapport au clan. Je vous donne un exemple que j'ai beaucoup étudié. Pendant longtemps, les rabbins pharisiens ont protégé la secte des judéo-chrétiens. C'était une secte mystique qui aurait pu être une secte mystique juive. Une des sectes mystiques juives. Ils avaient leur midrashim, comme beaucoup de sectes mystiques juives, on peut avoir disparu ou pas disparu, on peut avoir leur midrashim. On ne condamne pas quelqu'un pour une histoire de midrash. Quelqu'un qui a des idées, il a des idées, il est juif quand même. Comme je le dis souvent, il y a des juifs enrhumés. Bon, il y a des juifs qui ont des idées. C'est pas pour ça qu'on va les excommunier. Alors, il y a ça se soigne. Comme je vous dis, le rhume, ça se soigne avec l'aspirine, et les idées avec de l'inspirine. Mais ça se soigne. En tout cas, dans tous les cas, c'est pas du tout propre à la tradition juive qu'on excommunie quelqu'un. Par rapport à des idées ou à des actes. Quelle est la raison de l'excommunication, ou entre guillemets, à laquelle fait allusion? C'est une raison nationale, c'est évident. C'est quand les judéo-chrétiens ont pris parti pour Rome contre la Judée que les rabbins ont décrété le schisme. Tant que c'était des juifs chrétiens, c'était des juifs chrétiens, mais des juifs. Vous avez compris le problème? Alors, j'ai étudié cette question quand j'étais président des étudiants juifs. On avait affaire, on a réussi pendant 10 années à unifier les tendances de la jeunesse juive. Aujourd'hui, ça éclate, vous avez de nouveau des partis de droite, des partis de gauche, des partis sionistes, des partis religieux. Mais à l'UEJF de mon temps, tout le monde était là, en équipe. On avait un problème avec les juifs marxistes. Les juifs marxistes, pas du parti communiste juif, mais du parti communiste français. Et qui étaient envoyés d'ailleurs escalités, qui jouaient leur rôle. D'ailleurs, on s'est donné à bien qu'ils nous avaient dit. Maintenant, le temps a passé, je veux dire. Les réunions du conseil de l'UJF, qu'est-ce qu'on a passé comme lui, on les préparait au café à côté du bureau. Pendant 2 heures, on discutait ensemble autour d'une tasse de café, d'un verre de rhum, parce qu'il faisait quoi. Et puis, on décidait jusqu'où tu vas, jusqu'où je vais. Ça prenait 2 heures, donc on savait à l'avance qu'on allait se disputer 4 heures pour arriver là. C'est comme ça que ça se fait dans les yeshivas. Bon, ça, ça a éclaté. L'équipe unie de ce moment-là a éclaté. Et alors, j'ai d'ailleurs étudié avec le Rav Mouk, j'ai fondé le Rav Mouk, c'est le même problème. Parce que le problème d'un judéo-marxiste, dans une perspective, une problématique tout à fait différente, était très analogue au problème du judéo-chrétien. Et on était arrivé au critère à partir de quel moment on les considère plus comme juifs. À partir du moment où ils seront ennemis des juifs à l'échelle nationale. Leurs idées athées religieuses, ça c'est comme les judéo-chrétiens. Vous comprenez ce que je dis ? Et les instances rabbiniques de notre temps n'ont jamais eu la force et la stature des instances rabbiniques du temps de l'apparition du christianisme. Mais s'il y avait eu un schisme à déclarer avec les judéo-marxistes, maintenant encore, ça s'est atténué, l'importance des judéo-marxistes. On a évoqué après la guerre, la communauté juive était fascinée par le marxisme. Alors le marxisme est un athéisme anti-Torah. Et c'était pas un athéisme philosophique ou esthétique. C'était vraiment la destruction de la communauté juive, si vous voulez. Et alors, autant de l'apparition du judaïsme, c'est-à-dire du christianisme, qui s'est séparé du judaïsme, le critère a été, quand les judéo-chrétiens ont pris parti pour Rome contre les juifs, alors on les a déclarés traîtres, schismatiques. De la même manière, les judéo-marxistes ont lutté contre les juifs et contre Israël. Maintenant, c'est fini. Et ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés, ils ont changé de... Mais c'était à ce niveau-là. Alors on avait donné ça comme critère aux judéo-marxistes de dire tout ce qui touche à l'unité nationale des Juifs, vous ne touchez pas. Votre athéisme, votre marxisme, c'est très bien, c'est votre tendance, c'est votre mode. Mais ces choses-là, sinon, on se sépare. Vous voyez, avec le problème, c'est le même problème. C'est-à-dire, rachat.
Il y a eu des choses qui ne sont pas tout à fait très utiles, on peut les dire, à sauver énormément de petits Juifs polonais qui débarquaient sans papier, etc. Et il faut quand même reconnaître. Je pense qu'il n'y a pas eu une rupture dans la vie quotidienne.
Je vais donner un souci.
Sur le plan des idées, etc. Mais dans la vie quotidienne, il n'y a pas eu.
Je ne sais pas. Je pense par exemple à comment il s'appelle l'Autrichien. Un cas, lui aussi. Hein. C'est lui que vous dites.
Non,
c'est Krasuki. Ah, Krasuki, non. Ah, non, Krasuki. Non, je pensais à Krasuki.
Il a sauvé énormément de Polonais qui n'étaient pas venus, qui étaient dans un état.
D'accord, mais. Je veux dire qu'il y a une option politique qui mène à être ennemi des Juifs, en tant que peuple, en tant que nation, tout ce que vous voulez. Et je vais vous donner un exemple d'un de ces leaders, et nous sommes devenus ennemis intimes. À l'époque, on s'appelait des ennemis intimes. Depuis le temps, d'ailleurs, je vais raconter une anecdote, un jour, je l'ai rencontré, des années après, il me dit, Manitou, je t'en veux. Pourquoi ? Il dit, avant que je te connaisse, je ne pouvais pas supporter les religieux. Et maintenant, je peux. Je t'en veux à cause de ça. Vous avez compris le problème. Mais il m'a raconté une fois, mais bon, si pour la révolution mondiale, il faut massacrer 100 000 juifs, on les massacrera. Non, je vous cite des choses qui étaient, comment dire, vécues par ces gens-là. J'étais sincère. S'il faut passer par là, top. Alors, pour vous donner cette analogie, simplement la définition du rachat en ces temps-là, c'est pas par rapport à la Torah, c'est par rapport au Klal, c'est la Mishnah qui l'a dit. C'est clair ? Bon. Alors, attendez, oui, je finis l'analyse. Non, notez. D'ailleurs, il y a une question pour Rav. Alors, le Rav nous avait expliqué ça. Il y a une différence entre rachat et rare. Rare, c'est la tendance au mal telle qu'elle est dans notre nature. Rachat, c'est la méchanceté. Ça veut dire quand je veux ce mal de la tendance au mal. Est-ce que c'est clair ? Donne un exemple. Une bête féroce, c'est rare, c'est un mal naturel. Un homme, ça peut être rachat. Vous comprenez le problème. Alors il m'avait enseigné, qu'est-ce que ça veut dire hake et chinab, casse-lui les dents. Il y a différence entre rachat et rare, c'est un chin qu'il y a dans rachat. Enlève le chin de rachat, il reste rare. Et ça y est, c'est clair. Et là derrière, il y a une pédagogie. Ça veut dire, si on ramène cette révolte de méchanceté de rachat à la tendance naturelle, on le lui explique pourquoi il est en révolte, ça va se résorber. Donc il y a une pédagogie profonde là derrière l'apparence. Et par la suite, j'ai trouvé dans les textes que le chin, la dent, vous voyez, la dent représente comment dire, le, l'acte de manger sa proie, okay, alors il y a deux sécrétions possibles. Ou bien la salive de l'appétit, et les glands de la salive, c'est autour de la dent, il y a des dentistes parmi vous. Ou bien, ça c'est rare, je veux dire, c'est rare. C'est l'appétit qui fait que je veux manger. Bon. Mais s'il s'agit par exemple du serpent, cette salive, ça devient du venin. C'est ça la méchanceté. Est-ce que c'est clair ou d'autres références, mais je crois que c'est celui-là. Je n'ai pas la peine de prendre trop de temps. Ça veut dire, enlève-lui le chine, il reste que rare, ça c'est pas grave. Ça, si on ramène au Yetzirara et on arrive à expliquer, alors je vais l'expliquer d'une manière, parce que j'ai souvent été questionné là-dessus. Très souvent, on pense que les mitzvot de la Torah sont rationnelles, dans le sens, si vous voulez, qu'elles sont naturelles, ça va de soi. Par exemple, le respect des parents, regarde à quel point c'est rationnel, c'est une évidence. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est l'inverse. Si la Torah impose le respect des parents, c'est qu'elle sait que naturellement, les enfants s'opposent aux parents. C'est pourquoi la Torah intervient pour... Est-ce que c'est clair ? Oui, le problème. Alors, de la même manière, à partir du moment où les parents ont cette capacité d'expliquer aux enfants que naturellement, les enfants vont s'opposer, et les psychologues vous diront toutes les raisons qu'il y a pour, de ce mécanisme, alors l'enfant est rassuré. Quand il sent les pulsions de révolte contre les parents, de sang, etc., il sait que c'est la nature qui travaille, que c'est pas qu'il est un pervers. Okay ? Parce qu'il n'y a rien qui affole plus un adolescent quand il se découvre anormal, pervers. Alors qu'il est tout à fait normal, parce que c'est normal, dans le fonctionnement de la nature, que le Yetzirah fait que le fils s'oppose à son père. Alors quand le père ramène cette révolte de Rachar à une révolte de Ra, ça s'arrange. Voilà un peu l'explication qu'a donné le Rav. On enlève le Shin de Rachar. Et ça a créé Etchina. Vous avez compris le Rav. Top. Et alors, ce qu'il a ajouté est très important. La fin de la Mishnah. Iril uhaya sham lohaya nigal. Et s'il avait été là-bas, à la sortie de l'Égypte, il n'aurait pas été délivré. Et le Rav a ajouté, et je l'ai remis encore chez un autre des élèves du père, le Rav Kook, le Rav Harlap, quand ça avait fait ça, sham lohaya nigal, abal po haya nigal. Autant à la sortie de l'Égypte, l'Erchaïm n'aurait pas été sauvé, mais maintenant, oui, même l'Erchaïm sont sauvés. Et maintenant, ça dépend plus du meuble. Maintenant, c'est la fin des temps de l'exil qui est arrivée. Alors, ça vous explique pourquoi il y a tellement de Rechaïm en Israël. Je me rappelle une fois, j'étais chez le frère de Vassalé, Baba Haki, qui est dans le rabbin de Ramla. Et on étudiait, c'était un Shabbat. Et il y avait comme ça des élèves des chivotes antisionistes qui ont posé une question un peu assez insolente, mais il aura bien répondu à la réponse. Il parlait de ces Rechaïm qui est en Israël, c'est-à-dire des gens qui ne pratiquent pas la Torah, mais qui construisent l'Israël. Alors, le Rav a cité dans la Gemara, dit, ce sont des brigands qui ont détruit le temple, ce sont des brigands qui reconstruiront Jérusalem en hébreu. Alors il a dit, Bruchim Abayim, messieurs les brigands. Okay. La prophétie s'accomplit. Vous avez compris un peu le. Bon, alors ça c'est le rachat. Donc, on retrouve dans l'histoire de la famille d'Abraham cette attitude, c'est celle d'Ésaü. Et je vais vous dire quel est le verset, si vous voulez le noter. C'est quand Ésaü méprise le droit d'aînesse. Et dit, l'inéni, roler la mout, la mali bochora. Je vais à la mort, que ferait le midrash tout de suite, va y baise et ta bochora. Il a méprisé. C'est-à-dire, c'est dans la bouche des aïe qu'on entend, ma avoda azot la chèvre. Voilà la deuxième attitude. Bon, le tam, lui, il est sensible qu'au fait qu'il y a quelque chose de particulier. Manishtana, mazot, demande. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors on lui raconte l'histoire. Et le chenou Yodéa Richol est celui qui ne peut pas, qui ne sait pas interroger. Là, l'initiative doit venir du père. Le père pose la question avant de donner la réponse. Tandis qu'il y a trois autres cas, le fils sait interroger de trois manières différentes et le père doit donner la réponse. Alors on s'aperçoit que dans la famille d'Abraham, Jacob est appelé Tam. Seulement, je vous dis pas, on est appelé Ishtam. Vous savez, dans les illustrations des Agadot, vous voyez un simple d'esprit. Mais ça, c'est le Stam-Tam. Le simple tam, dans le sens de simple, d'esprit. Mais Yaakov est Ishtam, c'est un homme, mais paisible. Alors que Esav est appelé Ishgibor, Ishtaïd, un homme de chasse. C'est-à-dire, Jacob pourrait être comme Esaü, mais il préfère être comme Jacob. Là, il y a un problème philosophique très important. La vertu n'a de valeur que si on est capable du contraire. Quelqu'un qui est vertueux, mais pas capable du contraire de la vertu, c'est qu'il est vertueux par impuissance. Il est vertueux quand même. Grâce à Dieu, cette vertu, c'est vertu. Mais il y a une vertu. La même vertu est beaucoup, de beaucoup plus grande valeur s'il s'agit de quelqu'un qui est capable de comprendre. Est-ce que c'est clair? Alors ça, c'est Jacob. Jacob est capable de préparer le même repas qu'Ésaü le chasseur, et pas par la chasse. Vous voyez comme tout la différence. Donc, alors, on ne croyait pas qu'il s'agit d'un simple ensemble de l'idiot du village. Okay? Il s'agit de quelqu'un qui peut être un fort, mais paisible.
Ce qui est gênant, c'est que Noé aussi est différent.
À qui?
Noé aussi.
Tamim. C'est un autre mot. Tamim intègre. C'est autre chose. Tam, c'est paisible. C'est la simplicité profonde d'un homme qui est fort mais paisible. Est-ce que c'est clair? Je vais vous donner une fois un exemple de cette ambiguïté de la vertu si on n'est pas capable de comprendre. La Gemara dit, quelqu'un ne peut être dit humble que s'il est riche. Parce que s'il est pauvre, son humilité, c'est tout simplement qu'il est pauvre. Et vous avez compris? Alors des humbles, il n'y en a pas beaucoup. Que les rabbins le cherchent, on y écrit un livre, ils vont me dire qui a écrit ça. Mon rabbin chez les riches, qui c'est qui a écrit mon curé sur les riches?
Vautel, Clément Vautel.
Ah bon, ça existe, oui, si on revient à ma culture française. Et chez les riches, on l'a diagnostiqué chez Ishmael. Puisqu'on voit qu'Ishmael ne parle pas du tout dans la vie. Alors voilà les quatre personnages de la famille d'Abraham. Le Haram, il y a un sacrifice à faire, chiffré Isaac. Le rachat, il y a un sacrifice à faire, fais-le toi le juif, je communierai. C'est Esav. Vous avez compris ce que je veux dire? Et puis, Tam, c'est Jacob qui va fonder Israël, et Shemuel Arishol, c'est Ismaël. Les quatre sont définis par rapport à la question quand sera la délivrance de la fin des temps, comme je l'ai dit. Okay? Alors, on voit que tout ce chiffre 4 dans la Gada, c'est toujours 4 qui sont 5. Vous savez ce thème-là, okay? De la même manière, c'est quatre questions qui sont cinq, c'est quatre vers qui sont cinq, de la même manière, c'est quatre fils qui sont cinq. Alors on s'est posé la question, quel est le cinquième fils? Et j'ai lu des réponses. Le cinquième, c'est celui qui n'est pas au CDR, il est au cabaret, juif assimilé. Il y a une réponse traditionnelle, c'est celle de ce Haram que je vous cite, et qui dit, le cinquième fils, c'est celui qui est là, mais qui n'a pas posé de question parce qu'il a la réponse. C'est clair? Quelle réponse? Kriat Shemar Shel Shachrit. Vous voyez? Kriat Shemar Shel Shachrit, c'est l'annonce de la délivrance au matin. Et toute la Gada de Pessah, c'est sur le problème de savoir si on mentionne la sortie d'Égypte au Kriat Shemar de Harbit. Vous avez étudié ces problèmes-là. Et alors finalement, l'espérance, c'est le Kriat Shemar de Shachrit, que je redécode un peu. Au Kriat Shemar de Harbit, on rentre dans la Gada. Et l'affirmation de l'unité de Dieu est dans le sens suivant. Celui qui nous a donné la lumière, c'est celui qui nous dirige dans l'obscurité. Ça, c'est le schéma de Harbit. Alors le schéma de Shachrit, c'est celui qui nous a donné, qui nous a dirigé dans l'obscurité et celui qui nous donne maintenant la lumière. C'est celui de la délivrance. C'est l'affirmation d'unité dans une modalité inverse. C'est clair? Bon. Alors, toute l'étude de la Gada de Pessah commence par c'est Rabbi Lazar ben Azaria, Haré Ani, Kevet Shilim Shana, Velo Zachiti, Shete Amer, Etziat Mitzrayim, Balelot. Et je n'ai pas obtenu qu'on institue la mention de la sortie d'Égypte au Kriat Shema du soir. Et puis finalement, la Mishnah qui suit, c'est les Hachamim de la Nevrak qui discutaient de la délivrance du temps des Romains, jusqu'à ce que leurs élèves sont venus leur dire le temps de Kriat Shema chez Shachrit est arrivé, prenons les armes. Vous connaissez cette Mishnah, ok? On se demande qu'est-ce que faisaient les élèves alors que leurs maîtres étudient sont dehors, ils faisaient le guet dans la caverne de Néva. C'est comme dans la caverne. Et alors, je reviens à cette explication de Haram, il dit oui, il y a un cinquième enfant, c'est le Yud de Shachrit. Le Yud de Shachrit, c'est qui? C'est le cinquième enfant d'Israël. Alors le cinquième enfant de Jacob, c'est Issachar. Et le nom d'Issachar commence par Yud. Vous y êtes? Alors je vous ai cité hier le verset des Ibrahim qui dit Ubne Issachar Yodeae Bina Laitim. Et les descendants d'Issachar sont ceux qui connaissent la loi des temps. Alors Issachar ne pose pas de questions parce qu'il connaît la réponse. Ça y est, c'est clair? Voilà, c'était pour la question de David. Maintenant, vous avez deux questions ici. C'est Yehuda ou David?
David.
Comme
par rapport à ce que
vous venez
de dire, on a déjà dit, même si on fait toutes les
espèce d'analogie avec les femmes,
etc. Oui.
Il s'agit quand même du juif qui parle, donc ça reste toujours une analogie.
Mais non, c'est vraiment une analogie totale, parce que dans le principe, la racine d'Ismaël, c'est Abraham, la racine de Esav, c'est Isaac, etc. Comprenez bien une chose, c'est que, si vous voulez que je fasse une analyse, c'est que toutes ces lignées de la famille d'Abraham qui ont quitté la famille d'Abraham du point de vue d'Israël, eh bien, à l'origine, c'était la famille d'Abraham.
Ça veut dire donc que toute la descendance de ces gens-là va suivre le même...
Parlez-moi de la descendance des Juifs qui ont quitté le peuple juif. Écoutez, à l'origine, le christianisme, c'était quoi? Une religion d'Israël sans la nation d'Israël. Et c'est devenu romain, citoyen romain de religion chrétienne. Bon, alors aujourd'hui, un juif qui opterait pour une formule pareille.